Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro et on se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne tout de suite avec Raveli Lemel. Bonsoir Rav Lemel, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Raveli Lemel, comme chaque semaine avec vous et avec les Rabbanim, avec Mayasha qui font cette émission, on survole la paracha, le passage que nous lisons dans nos communautés le samedi, le passage de la Torah, et on arrive à Bechukotai. Alors Bechukotai, je suis pas un grand érudit, je vais vous dire les trois premiers mots. Imbechukotai tilchu, si vous allez dans mes commandements, et il y a toute une série de choses qui sont demandées, et qui sont exigées. Et vous, vous vous dites, pourquoi on nous parle comme ça? C'est vrai que généralement, on entend peut-être savait, ou Dieu a dit à Moïse, et tu leur diras. Mais qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, déjà des chokim, alors là, on a vraiment beaucoup à dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire si vous allez dans mes commandements? Voilà, c'est le sujet de votre réflexion de ce soir, Raveli Lemel.
Exact. Alors, je voudrais citer d'abord le premier passouk de la paracha, Im Bechukotai Telechu, traduit littéralement, plus ou moins. Si Bechukotai dans mes décrets Telechu, vous avancez, vous marchez, Vet Mitzvotai et mes mitzvot, mes commandements Tishmeru, vous gardez, va Asitem Otam et que vous les fassiez. On a ici quand même une redondance de termes. Alors, tout de suite après, eh bien, le texte nous dit, Venatati Gishmechem, à ce moment-là, Dieu annonce en effet une bracha, une bénédiction au niveau du peuple d'Israël. En premier lieu, tout d'abord, c'est ce fameux hymne sur lequel je voudrais m'arrêter, si vous gardez alors. Et ce petit hymne, ce petit mot, au fond, nous ouvre à quelque chose d'extrêmement fondamental et de complexe. Au fond, la Torah est en train de nous dire quelque chose qui, pour beaucoup de personnes, est difficile à intégrer, c'est que la totalité de tout ce qui se passe sur Terre va dépendre du comportement que nous allons avoir, plus particulièrement au niveau du peuple d'Israël. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours si simple à intégrer. Au fond, on est dans un monde dans lequel il y a des forces politiques, des forces économiques, toutes sortes de choses, et accepter le fait que c'est le comportement spirituel que l'on a qui est un élément déterminant là-dedans et que tout dépend de cela, c'est quelque chose de complexe. Et donc on a au début de ce verset tout d'abord ce mot qui nous dit, eh bien non, voilà, il faut que tu saches que ça dépend de ça. Et à partir de ce comportement spirituel, eh bien les choses vont fonctionner sur Terre. D'ailleurs c'est ce qu'on a vu un petit peu dans la fameuse histoire du combat entre Jacob et l'ange. Puisque rappelons-nous que lorsqu'il y a ce fameux combat entre les deux, eh bien, c'est un combat qui dure toute la nuit, et arrive l'aube, et à ce moment-là, l'ange n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait avec Jacob, et il le frappe quand même à la hanche, mais au fond, on est ici dans le combat de la galoute, de l'exil, et il s'agit, disons-le, maître, d'un combat spirituel. L'état spirituel du peuple d'Israël est un élément déterminant par rapport à son histoire. Donc déjà ce premier point sur lequel il faut vraiment bien réfléchir et qui est au cœur même de toute l'histoire du peuple juif, quelque chose qui est au centre même de notre émouna, savoir que notre comportement spirituel va être l'élément qui déterminera évidemment ce qui va se passer par la suite, avec un rapport de cause-effet qui n'est pas nécessairement immédiat, ou alors parfois des situations qui sembleraient vouloir nous dire que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, et c'est là où se retrouve justement le principe même de la émouna, de la foi profonde que le peuple d'Israël doit avoir. C'est un sujet en tant que tel qui mériterait d'être longuement développé, qu'évidemment nos maîtres développent longuement. Mais on va avancer. « Im si donc Bechukotai dans mes décrets Telechu, vous avancez. » Alors, c'est quoi les décrets au fond? C'est quoi les chokim? Les chokim, dit Rashi, par ailleurs, eh bien, ce sont ces commandements dont les nations prennent comme exemple pour se moquer de nous. Malhigim se moque. Alors, je vous en donner un très simple. allez, les lois de la cache-route, si on réfléchit, la personne va dire « Attends, c'est ridicule, c'est un morceau de bœuf. » Alors je comprends qu'éventuellement vous fassiez attention aux animaux, mais si on n'a pas été abattu rituellement, ça va, c'est la même viande, c'est le même bœuf. Ou alors les lois du châtenais, l'interdiction de porter dans un vêtement du lin et de la laine, ne serait-ce que dans une boutonnière. La personne va dire « Mais attendez, c'est quoi ces choses qui sont complètement ridicules ?» On a quand même un certain nombre de lois qui peuvent nous faire apparaître comme étant des personnes ridicules. Il y a une essaire. Le vin qu'une personne qui n'est pas juive aurait touché, que brusquement nous n'allons pas boire. Mais attendez, mais ça va. Mais... Alors que le whisky, il n'y a pas de problème. Enfin, ce sont les roukim. Et téléroux, c'est avancer. Alors, peut-être qu'on peut dire que le verset est en train de nous dire si vous êtes capable d'avancer dans le monde et d'assumer pleinement ce principe des roukim, c'est-à-dire de ne pas avoir peur, de ce regard parfois un peu apitoyé que les autres vont porter sur nous en disant ah, ça va, oh, quand même, c'est exagéré, quoi, c'est un peu ridicule votre truc. Non, ce sont les paroles d'Hachem, ce sont les paroles de Dieu, et c'est pas si simple. Vous savez, dans la vie, on aime bien apparaître comme étant des gens bien, ouverts, sympathiques, intelligents aux yeux des autres. Et là, eh bien, c'est parfois plus complexe, et ça, c'est déjà un premier point. Imbrukotai, si vous êtes capable d'avancer dans l'existence avec mes hukim, avec mes décrets, de les assumer, de dire oui, en effet, c'est la loi, et nous la vivons pleinement. Bet mitzvotai tishmeru, et que vous gardiez mes mitzvot. Alors, les mitzvot, ce sont ces lois, on va dire qu'elles sont parfois plus compréhensibles, en tout cas plus logiques. C'est la prière, c'est les fêtes, c'est le rituel, c'est les symboliques. Shmira, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué sur votre antenne d'ailleurs. Shomer, garder, ça nous renvoie à deux autres mots qui ont les mêmes lettres, Roshem et Morish, qui veut dire noter et faire hériter. La notion d'être shomer, c'est de donner de l'importance. De la même manière, vous notez une chose qui a de la valeur, vous faites hériter une chose qui représente quelque chose. Lishmor, garder, c'est donner de la valeur et de l'importance. Il ne s'agit pas juste d'être dans une forme de pratique rituelle, mais aussi de savoir donner de l'importance. Et cette importance que l'on donne, eh bien, elle va se révéler dans l'implication que l'on a au moment où on accomplit la mitzvah, le fait que l'on fasse attention à ces détails. Vous savez, souvent les personnes disent « Oh, arrêtez avec ces détails », mais j'ai envie de leur rappeler que ceux qui nous ont appris l'importance de ces détails, l'importance de ces mitzvot, ce sont les plus grands penseurs de la tradition juive, le Gaon de Vilna, le Rama, le Rambam, Maïmonide, ces grands penseurs, ces philosophes aussi, ne serait-ce que pour parler de Maïmonide, c'est eux qui nous ont appris que tous ces détails des mitzvot sont fondamentaux. Va sitem otam, mais que c'est dans cet état d'esprit-là qu'on les fasse, alors à ce moment-là, la bracha va arriver. Donc, deux notions, trois même. La première, réaliser qu'au fond, tout dépend de cela. Savoir ne pas avoir peur d'assumer les roukim parmi les nations, donner de l'importance. Mais je voudrais rajouter, j'ai presque envie de dire, en bonus aussi, une autre explication qui est basée sur ce que Rashi dit sur place. Rashi, vous savez que ces explications se complètent systématiquement, évidemment. Rashi dit, « Imbechukotei telechu », si vous allez littéralement dans mes roukim, « Shetiu amelim batora », que vous fassiez aussi un effort dans l'étude de la Torah. Et j'ai lu un commentaire, je ne me rappelle plus lequel d'ailleurs, mais c'est un commentaire que j'ai lu, qui nous dit, au fond, Imbechukotei, pourquoi est-ce qu'on appelle ici l'étude de la Torah un roc, une loi, qui est un décret, a priori c'est compréhensible, et il nous dit non, pas du tout. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui nous dépasse radicalement dans l'étude, c'est quoi? C'est que l'étude en tant que telle transforme l'individu, même si elle n'est pas philosophique, même si elle n'est pas sur des sujets d'éthique, ou quelque chose qui ressemble à cela. Si vous êtes capable de faire l'effort dans l'étude de la Torah et de comprendre qu'il y a ici quelque chose qui est du domaine de l'incompréhensible, c'est quoi? Eh bien, et je le vois d'ailleurs, je l'ai vu encore cette semaine, un jeune homme, c'est quelqu'un qui allait, on va dire aujourd'hui, qui est dans le monde des affaires, qui réussit bien, brillant étude, et qui jubile en prenant du temps d'étudier tous les jours, pendant trois quarts d'heure, une heure, des textes, sur bien, qu'est-ce qui se passe si on a fait telle bénédiction et qu'on a oublié, qu'on a confondu, et d'après l'opinion de Rabbi Shimon, et il est là, il ressort, il est nourri. S'il raconte cela aux autres, ils vont dire, attends, ça va, t'es en train d'ergoter sur des détails, des discussions, de mettre sur les bénédictions dans lesquelles on se serait trompé ou pas. et tu jubiles, ça te nourrit, oui. Ça, c'est la dimension qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer de la Torah, qui nous nourrit parce que c'est la parole d'Hachem. Voilà un petit peu ce premier passouk de la paracha qui, comme vous le voyez, est un excellent programme, un programme merveilleux. À nous de savoir, en effet, et à la fois l'entendre et surtout de le vivre pleinement.
Et d'essayer de progresser, puisque j'ai compris qu'il y avait une idée de progression. Rav Eli Lemel, je vous remercie. Et je vous souhaite un grand et beau Shabbat. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom à vous aussi.
Pour Jérusalem, on le retrouve, Rav Mordechai Biton. Bonsoir, Rav Mordechai Biton. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Mevorach, à tout le monde.
Shabbat Shalom, Mevorach. Rav Mordechai, vous voulez intervenir sur quelque chose qui, je crois, a souvent interpellé pas mal de monde. Alors, vous êtes en Israël, et on le sait, les Israéliens et les Juifs vivant en diaspora sont légèrement décalés. Sur un certain nombre de parachutes, et donc vous avez décidé de parler de celle qui vous concerne, vous, Jérusalem, et vous avez bien raison, c'est Bamidbar. On est dans une paracha qui est tellement technique, qui nous donne des détails qui nous semblent tellement pas nous concerner, quoi, en fait. Des détails qui pourraient intéresser un historien ou un comptable, mais sachant que la Torah, c'est le livre qui doit nous apprendre à comment vivre, c'est pas en nous disant combien il y a de personnes, combien de bataillons, combien... que ça va changer quoi que ce soit pour nous, pauvres Français, pour la plupart d'entre nous, pas tous, ça ne nous correspond pas, en fait. Donc, alors, et comme ce n'est pas possible que ça ne nous corresponde pas, il nous faut un rave. Et donc, on va vous demander à vous de nous décrypter et de nous expliquer ce que ça nous apprend.
Ah, effectivement, une paracha qui nous raconte donc, l'ordonnancement des Bnei Israël dans le désert, la répartition des camps, le nombre d'hommes par tribu, et puis également, c'est aussi l'ordonnancement des camps, mais aussi l'ordonnancement du camp autour du Mishkan, le tabernacle étant ici au centre de cet ordonnancement. Alors, il faut savoir que le Midrash nous rapporte que ce camp des Bnei Israël était en fait le reflet du camp des Malachim, des anges, donc dans le ciel. Manière de nous dire que, parce que Am Israël, ça c'est la première leçon qu'on doit tirer de cette présentation, c'est que lorsque chacun est à sa place, chaque tribu est à sa place, chaque tribu est dans son rôle, lorsque le Mishkan est là, eh bien il y a en quelque sorte une shlemut, une perfection. Ça c'est la première leçon de cette paracha. Chacun est à sa place, chacun là où il doit être, le Mishkan, le tabernacle est là, Am Israël est dans un état de perfection, il est là dans sa relation avec Hachem, tout est posé. Et c'est un reflet, en quelque sorte, c'est ça qu'on veut dire quand c'est un reflet de ce qui se passe là-haut dans le ciel, au niveau du camp des anges autour d'Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, c'est une manière de nous dire qu'il y a ici, du point de vue matériel et du point de vue spirituel, une équivalence, donc il y a une perfection. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour aller un petit peu plus loin, il y avait des dgalim. Des dgalim, c'est-à-dire des drapeaux. Alors, si vous regardez bien les mots dgalim, c'est intéressant, parce que les dgalim, c'est les mêmes lettres que Gadol. Qu'est-ce que c'est les drapeaux? Les drapeaux des tribus. Chaque tribu avait un drapeau. Chaque tribu, en fait, avait une gadloute. Quand on dit qu'une tribu avait un dégal, qu'elle avait un drapeau, c'est qu'en fait, elle avait une gadloute. Elle représentait quelque chose. Prenez par exemple la tribu de Dan. La tribu de Dan était considérée comme la tribu de Measef Tamachanot. C'est-à-dire qu'elle était là pour les objets trouvés. D'accord. À Paris, on appelle ça la rue des Borillons. Je ne sais pas si c'est toujours là-bas les objets trouvés, mais c'est un peu ce genre de choses. Mais ce n'est pas seulement ça. La tribu de Dan, elle avait une particularité, c'est qu'elle avait des membres qui étaient capables de sortir des Anané Kabol, des nuées de gloire, pour rattraper les Juifs qui avaient été exclus des Anané Kabol, des nuées de gloire, parce qu'ils n'étaient pas assez saints. Donc c'est des gens qui savaient faire du kirouf, quelque sorte. Ils savaient rapprocher des gens de leur source. Ils savaient les ramener à leur source. C'est la tribu de Dan. Et d'ailleurs, la tribu de Dan a engendré Shimshon. Et lorsque Yaakov Avinu a donné sa bénédiction à ses enfants, au moment où il a béni la tribu de Dan, il s'est arrêté, il a dit « J'espère encore la délivrance. » Pourquoi ? Parce qu'il a vu que Shimshon, Samson, devait sortir de cette tribu, amener le Mashiach, mais qu'il allait faillir dans sa tâche. Ça, c'est pour la tribu, en quelque sorte, qui nous apparaît comme la tribu la plus problématique. Mais par exemple, le Mirtav Meliahu, Rav Eliahu Dessler, dit au sujet de cette tribu, que cette tribu, elle est un peu, si vous voulez, l'incarnation d'un danger, parce qu'à la fois elle est capable de sortir, mais en même temps elle est disposition à descendre. Prenons maintenant le Dégel, la tribu, donc la Gadlout, la grandeur de la tribu la plus importante parmi les tribus des Béné Israël, la tribu de Yehuda, qui est la tribu de la royauté. Cette tribu-là, elle va être entourée de Issachar et Zevouloun. Alors, Issachar, c'est la tribu des sages, des Talmidei Chachamim. Zevouloun, c'est la tribu des commerçants, de ceux qui vont sortir faire des affaires, amasser de l'argent pour aider Issachar à étudier la Torah, et qui sont donc à côté de la Malchout, ils sont donc à côté de la tribu de la royauté. Alors, cette tribu-là, par exemple, son drapeau, sa gadlout, sa grandeur, c'est d'être la tribu qui va en permanence incarner le concept de la royauté. Et ça, c'est très intéressant parce que le concept de la royauté n'est pas un concept comme on l'entend, nous, les Français, vous étions des Français. Donc, quand on parle de roi, on pense à Louis XIV, le roi Soleil. On pense à Louis XVI qui s'est fait couper la tête. On pense à la dynastie des Bourbons, etc., etc., qui étaient des rois plus ou moins dépravés, à Saint-Louis, un antisémite. Qu'est-ce que c'est un roi dans la Torah? Un roi, c'est quelqu'un qui incarne la royauté d'Hachem. Il ne peut pas pardonner l'offense qui est faite à son honneur, parce que son honneur ne lui appartient pas. Donc c'est une tribu de gens qui ont un certain nombre d'attributs, c'est le cas de le dire, mais sont parfaitement conscients, et c'est ça leur grandeur, que tout leur est donné par Hachem, et que leur rôle, c'est de permettre à l'ensemble du peuple de rendre à Hachem sa royauté. Et c'est la raison pour laquelle les grands rois du peuple juif, comme David Améler par exemple, le roi David, eh ben, c'est le symbole même de la royauté d'Israël, alors que c'est en même temps le symbole même de la Hanava. Ça, c'est pour les drapeaux. Donc, on a parlé du placement, on a parlé des drapeaux. On va parler maintenant du Mishkan. Le Mishkan, le tabernacle, il est au centre. Le centre du peuple juif, le centre de gravité, le centre énergétique du peuple juif, c'est le Mishkan. C'est le tabernacle. C'est plus tard le Beit HaMikdash et le temple. Le centre énergétique de la vie juive, c'est la synagogue, c'est le Beit HaKnesset, où on se rassemble pour servir Hachem. C'est également l'endroit où on va étudier, c'est l'endroit où on va échanger au sujet de l'étude de la Torah. Cet endroit, il est au centre. Moi, je me serais bien attendu, je me serais bien expliqué, j'aurais pu facilement accepter qu'il soit en avant du peuple, c'est-à-dire que le Mishkan soit en quelque sorte ce qui guide la marche du peuple. Et là, vous voyez, c'est pas tout comme ça. Le Mishkan, il est au centre. Pourquoi? Parce que les différentes parties du peuple juif, elles peuvent être complètement emportées par ce qu'on appelle en français des forces centrifuges. Elles peuvent se diviser, elles peuvent s'énorgueillir. Chacune peut s'énorgueillir de son statut. On voit bien que lorsque le peuple juif a été constitué au départ, les frères ont détesté Yosef. Ils l'ont vendu et on est toujours en exil, précisément à cause de cette haine gratuite. Les différentes tribus ont un rôle, mais leur rôle peut les pousser à s'énorgueillir et à s'affronter. On voit bien, par exemple, que la tribu de Réhouven était à côté. La tribu de Réhouven, Datan et Aviram étaient là-bas. Ils n'étaient pas très loin de Korach, d'accord, de la partie des Lévim qui entourait le temple. Et on voit que ça les a conduits à rentrer dans la machloquette, dans la dispute de Korach. Donc on voit bien que cet ordonnancement est un ordonnancement qui peut être enrichissant ou au contraire qui peut être destructeur si on ne sait pas quoi en faire. Et bien effectivement, pourquoi le Beit HaMikdash, oui c'est le cas de le dire, Yerushalayim par exemple, est au centre de gravité des Eretz Israël. D'accord. Et pourquoi le Mishkan dans le désert, il est au centre? Parce qu'en fait, il rassemble. L'idée aussi, c'est que ce camp, avec chacun qui a des attributions, un dégel, un drapeau, une galoute, une grandeur, avec un rôle, eh bien, il faut qu'il ait en quelque sorte un point d'ancrage. Ce n'est pas un point de rassemblement, c'est un point d'ancrage. Tous les regards sont tournés vers le Mishkan. Manière de dire que si chacun a sa spécificité et sa grandeur, chacun s'annule devant la force spirituelle que représente le Mishkan, et tout le monde comprend qu'à égalité, chacun peut venir prendre sa force dans le Mishkan. Donc, allez, c'est comme ça une explication, je pense, claire de ce que la paracha vient nous raconter. C'est pour ça que la paracha ici, elle a l'air complètement sèche. Elle nous parle de nombre, de placement et tout, etc. Mais derrière le nombre et derrière le placement, il y a tout simplement cette idée de nous rappeler qu'il y a ici un ordonnancement et une centralité du Mishkan. Autre point qui est un point important, c'est que nos sages nous disent dans le Midrash qu'il y a quatre campements pour la Shrina, pour la présence divine. On voit que le camp des Béné Israël était divisé en quatre. Ce chiffre 4 est un chiffre très important. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre de la matérialité. 4, c'est devant, derrière, droite, gauche. C'est pas 6, où on peut ajouter la dimension du dessus et du dessous. C'est pas la dimension du 7, dans laquelle il y a le Shabbat au milieu de la matérielle. Il y a 4. 4, c'est le chiffre de la matérialité horizontale. 400, c'est le superlatif du Baal, par exemple, et ça va venir attaquer Jacob avec 400 guerriers. L'incarnation des forces du mal. Au passage, je renvoie les gens à une conférence qu'a fait Ron Chaya sur Germania, dans laquelle il montre que la Svastika, l'emblème nazi, c'était un Tav à l'endroit et un Tav à l'envers. Et Tav voulant dire 400, c'est-à-dire des forces du mal en haut et en bas, en quelque sorte, alliés pour le nazisme, pour détruire le monde et tenter de détruire le peuple juif. Revenons aux quatre. Ici, il y a quatre coins de l'Israël pour nous dire qu'il y a, en regard de ce chiffre 4 et matériel, quatre camps de la Shrina, quatre orientations de la présence divine, et que donc le peuple juif, et même chacun d'entre nous d'une certaine manière, peut regarder le monde par le prisme de la matérialité, un regard complètement matériel, ou au contraire, comprendre que dans le monde, dans cette dimension matérielle dans laquelle on vit, il y a aussi une dimension spirituelle. Je vais illustrer ça très simplement. Dans les actions matérielles, comme par exemple Shina, dormir en hébreu, Bia, qui est l'acte intime, Achila, manger, Shtia, boire, il y a à chaque fois les lettres en hébreu, les lettres Yudke. Or, les lettres Yudke, ce sont les lettres du nom de Dieu, mais qui représentent la spiritualité du nom de Dieu. Les dernières lettres du nom de Dieu, Vavke, représentent en quelque sorte la prégnance du nom de Dieu dans le monde matériel, c'est-à-dire la manière dont Hachem intervient dans ce monde. Dans les lettres qui représentent des actions matérielles, vous trouvez les lettres Yudke, c'est-à-dire la spiritualité, l'incarnation, la quintessence, la forme même de la spiritualité dans la matérialité. Manière de nous dire que quand on vit dans un monde où il y a la dimension de 4, une dimension matérielle, on doit savoir y inclure une résonance spirituelle, une ambition spirituelle. Ne pas seulement manger, boire et dormir, ou avoir des relations intimes simplement pour se satisfaire, mais apprendre tout ce qu'il peut y avoir d'épanouissant qui peut amener l'individu à servir Hachem. De toute façon, même dans le monde matériel, dans manger, boire, etc., il y a des halakhot, il y a une manière de se relier à Hachem par ce que l'on fait et qui prend l'apparence d'action matérielle. Par contre, dans les mots spirituels, comme par exemple Kedusha, sainteté, Torah, Hora'a, l'enseignement, on trouve les mots Vavke. Pourquoi Vavke ? C'est intéressant parce que c'est une manière de nous dire que pour qu'on puisse en quelque sorte faire exister dans la Torah dans le monde, il faut forcément passer par le prisme de la matière. Par exemple, pour faire un Sefer Torah, il faut une peau de vache. Mauvaise expression en français, une peau de vache, d'accord ? Ben, il faut une peau de vache pour faire un Sefer Torah, pour faire des mezouzot, pour faire des tefilines, d'accord ? Pour faire une soukha, il faut des plantes, il faut des végétaux. Pour un chauffard, il faut une corne d'un bélier, etc., etc. Donc on voit qu'il y a une intrication, une espèce de extrêmement forte entre le monde matériel et le monde spirituel. Manière de nous dire que ce monde dans lequel on vit est un monde dans lequel, par le fait qu'on étudie la Torah, qu'on fait des mitzvot, qu'on prie, qu'on se relie à la dimension spirituelle qui a à Dieu, qui a permis l'existence de ce monde matériel, eh ben, on n'est pas seulement dans la matérialité, on est dans un épanouissement spirituel. On fait des choses qui sont en apparence matérielle, mais en fait, on est dans une dimension d'épanouissement spirituel aussi et surtout. Voilà des points qui sont importants, me semble-t-il, qui sont reliés à cette paracha. À part ça, il faut savoir que cette paracha s'appelle Bamidbar, comme le livre que nous allons inaugurer. Et Bamidbar, eh bien, c'est une exigence que la Torah développe vis-à-vis de nous, qui est de nous dire que Mishemesim et Asmo que Midbar, la personne qui se pose en désert, c'est une personne qui se voit vide et aride, eh bien, cette personne peut se faire arroser. Elle peut effectivement bénéficier de toute la force que la Torah va donner. Mais une personne qui pense qu'elle a déjà tout ce qu'elle doit avoir, effectivement, ne pourra jamais bénéficier de cet arrosage que la Torah donne à l'être, à l'individu. Voilà, à toutes et à tous, Shabbat Shalom.
C'est le fameux enseignement du Rabbi Lubavitch qui dit « L'homme n'a pas été mis sur terre pour s'élever de la matérialité, pour s'extraire de la matérialité, s'élever, mais pour élever la matérialité. » Je crois que c'est vraiment très, très probant avec ce que vous venez de nous dire. Rav Mordechai Biton, merci. Je vous souhaite un grand et beau Shabbat. Et on se retrouve la semaine prochaine. Avec bientôt Shavuot qui arrive. Donc, il y a plein de choses à se dire. Rav Mordechai Biton à Jérusalem. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chadré, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, on me vorach.
Shabbat Shalom, un beau Shabbat plein de lumière et de chaleur où nous allons avancer dans notre réflexion sur la paracha. Et alors vous, vous voulez dire quelque chose de bien particulier et de très beau d'ailleurs. C'est que la Torah, c'est pas une doxa, c'est pas un dogme. C'est quelque chose de profondément vivant. Et il faut savoir, on va dire, comment capter cette énergie, garder son énergie. De la Torah, j'entends. Enfin bref, c'est pas un dogme. Alors qu'est-ce que vous entendez par là ?
Eh oui, en effet. Alors, à une semaine à peu près de Shavuot, c'est fondamental de se souvenir de cela. C'est un fondamental, c'est constitutif hein, vraiment de la Torah et du judaïsme. Vous savez, on va lire la paracha de Berukotai, qui est une paracha vraiment difficile. En tout cas, en grande partie, il y a ce que l'on appelle les malédictions. Et je vais, avec votre permission, me concentrer sur les bénédictions qui y sont également présentes. Berukotai, c'est ce contrat que l'on établit entre Dieu et le peuple d'Israël au pied du Sinaï, où il nous dit, ben, voilà, je vous donne un certain nombre de mitzvot, et il faut les faire, il faut les appliquer, les pratiquer. Et suite à cela, eh bien, vous aurez la pluie, l'abondance, vous serez en paix, vous n'aurez pas d'ennemis, enfin, vraiment une pluie de bénédictions, c'est le cas de le dire. Et pour vraiment introduire cette pluie de brachot, le texte de la Torah dit « Im berukotai telehu », donc si vous avancez dans mes statuts, dans mes chukim, et mitzvotai tishmeru, si vous appliquez les commandements de la Torah. Et bien entendu, la question évidente, c'est oui, il faut appliquer les commandements de la Torah, mais enfin, que vient nous rajouter ce terme d'avancer, de marcher dans les chukim ? Et ici, on a d'abord un commentaire du Or HaChaim HaKadosh qui est magistral. Alors, je dis magistral parce qu'il a écrit non moins de 42 explications successives sur juste ces deux mots. Ces trois mots, im, berukotai, telehu. Et on a également, beaucoup plus concis, un commentaire du Rashi là-dessus, qui dit, c'est quoi chukim, avancer avec des chukim, si on a déjà donné l'ordre de pratiquer les mitzvot ? Eh bien, c'est quelque chose d'autre, de parallèle, qui s'appelle amelim batorah, c'est-à-dire vous donner de la peine dans l'étude de la Torah. Alors, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui, mon cher Bernard, d'évoquer ce fondement constitutif du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'est pas juste un peuple qui a reçu la Torah et qui se doit de l'appliquer, c'est aussi le peuple du livre, c'est le peuple de l'étude, c'est le peuple de la yeshiva, c'est le peuple qui, d'ailleurs que l'on soit ou pas à la yeshiva, on a l'obligation tout au long de notre vie d'étudier, et c'est ce qu'on fait sur Radio Shalom. Tous les vendredis, on étudie et on ne peut pas se dire « nous avons déjà étudié l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 10 ans ou un autre jour ». En fait, c'est vraiment constitutif de l'état du fait juif, je dirais. Le fait juif, c'est être avec un livre, réfléchir, approfondir. Alors, on peut se poser la question, et c'est une question légitime, mais pourquoi donc ? Une fois que nous savons pratiquer les mitzvot, on sait faire le Shabbat, disons, on sait manger kasher, on sait pratiquer les lois de la Tahara dans le couple… Bon, pour citer les trois, on va dire les trois essentiels, et puis après, eh bien, on sait qu'on doit porter notre aide à nos prochains, être charitable, altruiste, aider à la veuve, l'orphelin. Bon, on connaît hein, les grands thèmes de la Torah, nous les connaissons. Pourquoi l'étudier ? Pourquoi encore ? Et l'étudier, c'est pas juste l'étudier. Vous donnez de la peine, vous fatiguez. Pourquoi se fatiguer ? Et c'est réellement, vraiment, un travail. En fait, complètement, est-ce que aujourd'hui, je me suis arrêtée et j'ai réfléchi ? Alors, dans un des commentaires du Or HaChaim HaKadosh, le numéro 33, sur ses 42 explications, il dit que finalement, faire une mitzvah, même si on la fait très bien, mais si on n'a pas compris son sens, c'est comme un corps sans âme. C'est mettre en place un geste, une action, mais qui ne serait pas animé d'une âme, d'une intériorité. Et en disant cela, il précise l'importance absolue d'impulser tout ce que nous faisons d'une force intentionnelle, d'une force de proximité avec l'acte que nous faisons, en y investissant notre énergie qui est impulsée par notre intériorité, notre âme, notre réflexion, notre profondeur. Et ça, c'est fondamental. Et nous avons une obligation de nous donner de la peine dans l'étude de la Torah, tout simplement parce que la Torah, la mise en place, la pratique de la Torah, ne doit surtout pas être une doxa. Ce n'est pas une liste de cases à cocher, parce qu'une liste de cases à cocher, ce serait tout simplement un corps sans âme. Et donc, ça serait une Torah qui serait sèche, qui serait ridée, qui serait vieillotte, qui serait poussiéreuse. Et Dieu préserve, elle peut le devenir, hein. On peut malheureusement être dans un rapport à la Torah et au judaïsme qui est finalement d'accomplir ce que l'on a toujours vu et fait. Et alors, il y a un verset extraordinaire à la fin de la Torah, hein, qui conclut quasiment la Torah. C'est d'ailleurs le premier verset qu'on enseigne aux enfants quand ils commencent à parler. On le dit « Torah tziva lanu Moshe Morasha ». Voilà, la Torah que Moshe nous a ordonnée au Sinaï, Morasha. Morasha se traduit généralement par « c'est un héritage, c'est une Yerusha ». Et là, la Gemara dans Psachim nous met en garde, nous dit « Oups, attention, attention, ne tombez pas dans le panneau, ne dites pas que c'est une Yerusha, ne dites pas que c'est un héritage. Il ne faut pas lire Morasha, il faut lire un autre mot sémantiquement proche, mais Orasa, c'est une fiancée. » Alors que veut dire la Gemara quand elle dit « attention, ce n'est pas un héritage ». Qu'est-ce que c'est qu'un héritage? Que fait-on pour mériter un héritage? Justement, rien. Il suffit de naître dans une famille dans laquelle l'héritage arrive. Il suffit de signer le papier chez le notaire ou que sais-je. Bon, l'héritage vient de fait. Ça se transmet, c'est du transgénérationnel. Ce n'est pas un héritage, nous dit la Gemara. La petite partie d'héritage qu'il y a, c'est oui, on a la chance de naître juif, donc nous avons cette Torah, mais on ne doit pas la pratiquer d'une façon héritée. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas dire « Ah ben, chez mes grands-parents, on faisait comme ça ». Mais qu'est-ce que c'est que ces inventions? On a toujours fait autrement, on connaît ces phrases-là. Mais qu'est-ce que tu viens m'apporter? Pas du tout. Eh bien, la Torah de mon père, la Torah de mon grand-père, ce n'est pas ma Torah. C'est certainement la même Torah, celle qui vient de Sinaï, mais elle me parle à moi. Et elle vient faire vibrer à l'intérieur de moi des cordes, des notes de musique différentes. Parce qu'il y a un dialogue intime et profond entre la Torah et celui qui la lit, et en fonction de son âme qui est unique, qui est une étincelle divine, eh bien cette Torah va venir et va évoquer des éléments, va créer une fertilité intérieure qui va produire quelque chose qui n'a pas été produit avant, ni une, ni deux, ni dix générations, quelque chose de neuf, quelque chose d'innovant, qui n'est pas, évidemment, Dieu préserve, en dehors de la tradition, mais qui vient donner une profondeur nouvelle, une intention nouvelle, une fraîcheur. Et c'est cette fraîcheur dont nous avons absolument tous besoin pour que ce soit une Torah vivante, une Torah pleine d'énergie, une Torah pleine de fertilité. Eh bien, il ne faut pas que ce soit une Yerusha, il faut que ce soit une fiancée. Et qu'est-ce que c'est qu'une fiancée? Une fiancée, c'est un engagement. Mais c'est un engagement à s'investir. Parce que deux fiancés, il faut passer à marier. Et pour cela, personne n'a pu créer un couple, si ce n'est en s'investissant. Et en s'investissant de façon personnelle, intime et profonde. Et si on ne s'investit pas dans la Torah elle-même ne va pas s'investir à l'intérieur de nous pour produire des fruits. Donc il y a un impératif absolu avant Shavuot de se rappeler, attention, on ne va pas fêter un Shavuot historique, on va fêter un Shavuot personnel. Ce Shavuot personnel, c'est la Torah me parle à moi et je dois aller approfondir. Et pour cela, eh bien, je dois peut-être allumer Radio Shalom à l'heure où il va y avoir des commentaires. Je dois peut-être aller à la synagogue écouter un cours, ou je dois peut-être moi innover un cours auprès de mes proches. En tous les cas, il va falloir que je sois dans un lien dynamisant, un lien intime avec cette Torah pour qu'elle puisse fertiliser à l'intérieur de moi tout ce qu'elle a à fertiliser. Alors, qu'est-ce qui reste qui est de l'ordre de la Yerusha? J'aime bien dire avec une pointe d'humour, ce que nous héritons, c'est les recettes de cuisine. Et elles, on peut les hériter, la recette que ce soit de la dafina, de la pkeila, du tchoulent, on peut les hériter, c'est sans risque, c'est bon, c'est le goût des grands-parents, des arrière-grands-parents, et c'est toujours délicieux d'hériter des recettes de cuisine. Par contre, ce que la Torah a à me dire à moi, personnellement, ça doit être absolument frais, nouveau, innovant, personnel, percutant, approfondissant, pour que l'on puisse créer une Torah qui est tout le temps pleine de vie et d'énergie.
On finit comme ça, d'un coup. Mariage, ça, je pensais en vous écoutant, je me disais d'abord déjà, Shavuot, c'est un jour de mariage, non?
Absolument, hein, absolument.
Donc
c'est transversal. Hein. Cette métaphore du mariage entre le ciel et la terre, entre Dieu et son peuple, entre la Torah et son peuple, est absolument transversale dans la littérature biblique.
Je vous promets que c'est vrai. Un jour, je vais dans une sina, en fait c'était à Pavé. Et je rentre dans la sina et je dis, mais il y a quelqu'un qui se marie? Parce qu'ils avaient mis les fleurs bien avant, je vois, plusieurs jours avant. Et quelqu'un qui me regarde me fait, bah toi. Ah bon, moi je me marie, il me dit, oui, c'est toi qui te maries. Et je réfléchissais en vous écoutant, je me souviens pas de... Bah tiens, ça serait un beau concours à faire, justement, puisque c'est Shabbat ce soir, à table, réfléchir. Je me demandais quel était le rabbi de la lignée des Lubavitch, qui avait dit, c'est quoi ton anniversaire? Bah, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait plus exister sans toi. Et je trouve, c'est beau, hein?
Ah oui, parce que chacun a son talent et sa mission. Et sans Torah, on peut pas, je crois que sans une lecture personnelle et intime et profonde de la Torah, on peut pas découvrir notre mission, notre talent et ce dans le domaine dans lequel le monde a besoin de nous de façon impérative.
Et sa Torah, j'ai bien entendu ce que vous disiez. Ça aussi, souvent, on a envie de dire, mais je ne peux pas dire ma Torah, mais qui je suis, moi? Oui, ta Torah.
Ah.
Ouais. Mariacha, toujours un extraordinaire plaisir de vous entendre, et même un tout petit peu de dialoguer avec vous, même si on n'a pas vos connaissances. Je vous remercie.
Merci à vous. Merci.
Et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Et dans ces longs Shabbatot d'été, ben, je crois qu'on a tous bien l'occasion de pouvoir ouvrir le texte, le Chumash, et de se laisser imprégner de ces merveilleux mots de la Torah.
Puis il y a quelque chose de merveilleux à faire, vous avez raison, en plus des fois, le temps peut être super agréable, on ouvre les fenêtres, on peut faire les pires kavot en ce moment. On aussi finit Shabbat, même d'ailleurs y compris en couple, hein, avec sa femme. On en profite pour lire les pires kavot. Maria Chadré, je vous souhaite un beau Shabbat, à la semaine prochaine.
Shabbat, à bientôt.
Shalom leiboy naboy, Hashem lo yishmarihi, shav shokat shoy bay, Hashem lo yirne bayis. Shalom leiboy naboy, Hashem lo yishmarihi, shav shokat shoy bay.